Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline, salut Alex.
Non, il est pas là. Salut Pablo.
Bonjour Pablo.
Alors, comment ça se passe les fêtes ici? On fait quoi? Un petit cocktail? Une pièce montée?
Non, pas vraiment. Mais tu sais Pablo, on a une très grande confiance en toi.
D'ailleurs, on n'est pas loin de penser que t'es le meilleur chroniqueur de l'émission.
Ah oui, je sais.
Ouais. Vous êtes pas mauvais non plus les deux, hein, je vous le dis.
C'est pour ça qu'on a décidé de te mettre dans les florilèges.
Voilà. Ouais, mais si c'est les meilleurs moments, on va pas entendre très souvent les autres chroniqueurs.
Attention, derrière toi, il y a ta modestie qui s'enfuit.
En tout cas, moi je vous le dis, je suis prêt pour les florilèges. Tiens Charline, ma petite louloute, hein, je t'ai écrit le lancement.
Nous sommes le 1er janvier 2019 et c'est le moment de passer la parole à celui qui est toujours une belle surprise pour nous.
Merci Charline.
Comme la gastro du 1er janvier.
Charline. Bon, je sais que personne n'attendait mon avis sur l'émission par Jupiter.
Non, en effet.
Eh bien, je vais vous le donner quand même.
Merde.
Cette émission, je vous le dis, écoutez-moi, est le tube digestif de l'islamo-gauchisme.
Et
les Français le savent puisque j'ai les chiffres, je vous les donne. Bah, écoutez bien, seulement 1 million d'auditeurs, cela veut dire, Charline, écoutez-moi, que plus de 65 millions de Français n'écoutent pas Guillaume et sa bande.
Non, mais attends, tu sais, je crois qu'on va se contenter juste de rediffuser une chronique.
Ouais, on va faire ça, voilà, c'est bon.
Ouais, bon, tant que j'ai les droits d'auteur.
Merci Pablo.
Sinon, quelque chose à ajouter?
Pour conclure, car je n'ai malheureusement pas pu donner mon avis sur l'émission, de toute façon, ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus rien dire sur France Inter. D'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver dans Mauvaise Foi Magazine et sur Droite Tout est FM. Mais,
merci Pablo, super. Ouais.
Et Pablo, et surtout, bonnes vacances.
Allez, voilà. Salut.
Bonne année, la France Inter.
Bonne année, Alex Pizorek.
On est déjà à l'unisson commencer. Nous sommes donc en 2019. Elle est derrière nous, cette fameuse année qui nous obligea chaque jour à dire 8. Bon. 2018, c'est bien fini. Quels invités avons-nous choisi pour démarrer du bon pied? Le joyeux Camini, le rappeur de Marly Goumont. C'est pourquoi on a choisi d'évoquer avec lui le nombre croissant de maires de petites communes qui rendent leurs écharpes alors qu'ils sont les élus en qui les Français ont encore confiance. Nous accueillerons ensuite un apiculteur, car c'est important de recevoir des gens qui exercent un métier qui ne donne pas forcément accès à une exposition médiatique. Alors lui s'appelle Arnaud Montebourg, c'est vrai. Bon, il va nous parler de ses solutions pour relancer la production de miel et d'amandes, made in France. Et puis le ministère de la Santé envisage de noter l'hôpital public. Il y a aussi le ministère de l'Éducation qui propose d'évaluer les enseignants. Alors, en créant une société de la notation, est-ce qu'on nous prépare un monde de premier de la classe? Nous avons posé cette question à notre apiculteur. Quant au sketch, nous lui avons proposé de faire comme pour les abeilles, d'imaginer un plan de sauvegarde des socialistes.
On avait bien dit.
Alex, alors, quelles ouvrières de la chronique sont dans la ruche aujourd'hui?
Écoutez, on peut pas commencer une nouvelle année, Charline, sans une toute belle équipe. Mélanie Bauer viendra parler du CD de Camini, Eux le vrai France, en Picard dans le texte. Guillaume Meurice viendra un petit peu analyser la popularité d'Arnaud Montebourg. Il est allé à la rencontre des Français, on n'a pas été déçus. Pablo Mira parlera du malaise des policiers. Et on terminera par Frédéric Fromet, qui pour une fois a une chanson au titre anglophone, Make Our Planet Great Again.
Allez, on lâche le frein à main et on entame la route vers Marly Goumont avec Camini.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue chez nous, Camini.
Écoutez, je suis content d'être là, c'est un grand honneur.
Alors Camini, bien sûr, tout le monde connaît Marly Goumont. Alors vous n'êtes pas que ça, bien sûr, et on va en parler. Il y a déjà une émission qui s'appelle Les gens des hauts.
Tout à fait.
Sur France 3, qu'on peut voir France 3 National le mercredi matin à 9h, le dimanche à 13h, car vous êtes un gars du Nord. Vous êtes aussi chroniqueur dans l'émission de Faustil Bollaert sur France 4, Il était une fois.
Ouais.
Et puis il y a un album en préparation, si je ne m'abuse, et ça, on va y revenir avec Mélanie Bauer.
Moi, je l'ai pas. Hein.
Bah non, il est en préparation.
Bah oui,
moi non plus, je l'ai pas d'ailleurs. Je sais pas comment je vais faire là.
Camini, donc on se rappelle tous de ce qui a été parmi les premiers buzz internet, finalement, votre chanson et votre clip. Donc, on rappelle, vous habitez dans un petit village, Marly Goumont.
Marly Goumont, voilà. 400 habitants. Je dois parler du clip, c'est ça, ou de...
Non, je te juste rappeler en deux trois mots.
Oui, voilà, c'est en gros, dans Marly Gaumont, je respecte un code de rappeur. Dans le rap, on doit toujours revendiquer là d'où on vient. Un mec du 9-3, il fait une chanson sur le 9-3. Un mec de Marseille sur Marseille. Et moi, je venais de Marly Gaumont, donc voilà, j'ai assumé, voilà, j'ai écouté. Voilà, je fais du rap, mais à la campagne.
Et là, où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'un ce qu'on appelle un buzz, c'est une bulle qui finit par éclater très vite, un feu de paille. Mais vous êtes toujours là. Comment est-ce que vous avez réussi à transformer l'essai? Est-ce que c'est parce que... Alors, il faut dire que ça peut être quelque chose de réducteur quand on a un tel succès que tout le monde a vu les choses,
on est
etc.
Un Wall It Wonder, on appelle ça.
Ah oui,
un gros hit, ouais.
D'accord. Et donc, malgré ce côté réducteur, vous arrivez d'une part à en jouer parce que vous le déclinez, vous y faites allusion. Mais voilà, vous êtes toujours là avec plusieurs casquettes, comme on l'a dit.
Vrai que je me laisse porter un peu par le destin. Par les rencontres, les chemins de vie, et voilà, moi je fais de l'art, donc ça peut être de la peinture, de la scène, de la télévision, écrire un scénario de film comme le film Bienvenue à Marly Gaumont. Voilà, je suis un touche à tout, et on a qu'une vie, donc il faut foncer, s'amuser et surtout vraiment laisser aller sa propre créativité, c'est ce que je dirais.
Mais en France, on dit assez vite qu'on range les gens dans des cases. Ouais. Moi un jour on m'a dit aujourd'hui parmi les humoristes qui vont passer ce soir, il y a Camini qui
vous
vient.
Dites ça parce qu'il est noir?
Non,
des cases.
Pas du tout. Et je me suis dit, bah, tiens, Camini, ce serait pas un chanteur. Et puis, vous êtes hyper bon humoriste, en fait. Et
j'étais on s'était vu sur ça. On s'était croisé au théâtre du Trévise. Je bosse dur, quoi. C'est du boulot. De toute façon, l'humour, il n'y a pas de secret. Là, on peut pas tricher. On s'en fout de qui tu es quand tu montes sur scène. Mmh. Les gens, ils sont là pour se marrer. Mmh. Donc, si t'as bossé, normalement, ça doit être efficace. Donc, voilà.
Alors, vous avez une émission sur France 3, hein, je l'ai dit, qui s'appelle Les gens des hauts. Vous restez un médiateur, et à la fois du monde rural, et à la fois, ce qu'on appelle les Hauts-de-France aujourd'hui.
Oui.
Quand on fait ce métier, c'est qu'on veut transmettre. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Vous en assumez fait, ce côté
en fait,
maillon?
Oui, mais en fait, Les gens des hauts, c'est une émission qui parle de patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Mais ça s'appelle Les gens des hauts parce qu'on parle des gens, donc de parcours de vie, parfois atypiques. Un exemple, dans le Vimeux, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Stéphane, qui était chanteur d'opéra, mais un vrai chanteur, hein, donc « Non te giorno fatigar », un professionnel, pas comme moi, je suis amateur, ça fait 3 ans seulement, mais j'ai quand même mon petit niveau, je te l'ai montré.
Ouais, franchement, voilà. Vous avez fait cette blague dans l'émission,
c'est
un métier humoriste.
Oui, je fais toujours la même blague, merci. Merci de me griller comme ça dans tout le monde.
L'amateur, ça c'est les chroniqueurs musicaux.
Donc je reprends. Donc des parcours de vie atypiques, comme Stéphane, chanteur d'opéra international, professionnel, du jour au lendemain, il décide d'arrêter et il veut devenir berger comme son papa dans le Vimeux. Et aujourd'hui, il est berger. Donc voilà, c'est des histoires de vie et de patrimoine. C'est un mélange de tout, dans la joie et la bonne humeur. Et il y a aussi un peu d'infos.
Mm-hmm. Voilà. Et des crevettes, je vous ai vu avec des crevettes.
Ouais, alors un concours de décortiquage de crevettes.
Ah oui, Monique Van Zingel a été détrônée.
Et j'ai été vaincu.
Voilà, parce que moi, on a suivi de très près chaque année.
Comme invité. La championne du monde de décortiquage de crevettes.
Que j'ai interviewé.
Monique, elle s'appelait.
Oui, c'est ça. Bah,
bien sûr.
Crevette grise, effectivement. Ouais.
Pendant des années, c'est vraiment la Zidane de la crevette.
Mélanie Bauer, venons-en à la partie musique.
Moi, j'aime le rap et je suis contente de parler de vous parce que vous êtes un personnage singulier du hip-hop. Vous en explorez d'ailleurs avec gourmandise toutes les facettes, qu'elles soient musicales ou visuelles. Et surtout, et ça c'est le must pour un rappeur, quoi que vous chantiez, vous avez le talent du flow. Votre rythme de parole est naturel, intrépide et sautillant. Alors tout commence donc avec votre tube qualifié d'humoristique, Marly Gaumont, en 2006. Un carton qui passe même dans le JT de Jean-Pierre Pernaud.
Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait à Marly Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. 3 jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux une seule famille de noirs, fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar. Yo.
Alors, humoristique, vraiment, je me pose la question, il vaut mieux t'en rire, hein, ça pourrait d'ailleurs être la devise de cette émission, car si la forme est drôle, le fond est plutôt triste. Racisme, désertification des campagnes, maladie mentale, show business, ça c'est le plus triste. Vous racontez tout de l'histoire de votre famille à votre ascension fulgurante à la télévision, en chanson, vous en avez même fait une comédie. Mais moi, je dois vous l'avouer, je suis atypique, je suis hyper empathique. Alors, quand vous rigolez, moi, je peux pas m'empêcher de verser une larme sur ce petit garçon qui sait qu'il est différent parce qu'il est noir, mais qui trouve aussi que les autres, qui sont tous blancs, ils sont carrément bizarres, voire même un peu cons.
C'est
mérite bien, c'est mieux de faire le bien.
On est attiré par le mal, parce qu'on est
con. On est des cons, car on confond tout. On a tous de petites voix qui parlent au fond de nous. La voix du con ou la voix de la raison. Mais vu qu'on est des cons,
on écoute la voix du con.
Alors, Camini, face à la haine, la violence et la peur, vous avez donc trouvé la solution, l'humour, ce petit pas de recul qui permet de dire que finalement tout ça ne vaut pas la peine qu'on se batte. Mais c'est embêtant, les gens, ils aiment la bagarre, le pouvoir, tout ça et la naïveté, ben ça agace. Un type qui ne prend rien au sérieux, c'est énervant. Regardez Frédéric Fromé ou Guillaume Meurice, ils sont agaçants, ce regard d'enfant qui vous assène des vérités. Ça fait mal au déni des gens responsables et sérieux, les bien-pensants. Car oui, ça rend méchant la tendresse.
Peu importe le jour, le temps, l'heure, le lieu. Ils jaillissent de partout, de tous les milieux. Qu'ils soient blancs, renois ou qu'ils soient rebeux. Ils ont des armes blanches ou des armes à feu. Ils bombent le torse, se prennent pour des dieux. Quand ils sont tout seuls, ils sont très peureux. Sarkozy pour gagner, ça peut servir d'eux. C'est le genre de personne qu'on a rien à foutre. Tu les trouves par milliers dans les stades de foot. Ils aiment les embrouilles, ils aiment les histoires. Je les nomme, les moi j'aime bien la bagarre.
Moi j'aime bien la bagarre. Moi j'aime bien la bagarre.
J'adore ce morceau. Enfin, Camini, vous expliquez que vous êtes atteint de dysmorphophobie corporelle. Vous vous voyez plus gros que ce que vous êtes, un peu comme la grenouille qui se prenait pour un bœuf. C'est peut-être cela qui vous permet de nous trouver cons, malades, branchés et d'en rire. Attention, j'ai pas dit plus grand que vous-même. Hein. Non, plus gros, ça veut dire hors norme, avec beaucoup de force, beaucoup de tendresse, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous, il vous faut de l'espace, comme dans la vraie France, là où il y a des champs et des vaches, et de la trappe. La trappe, Alex, c'est du rap à la mode genre PNL, qui résonne dans des voitures pimpées.
J'aime bien que vous m'expliquiez, mais que malgré l'explication, ça ne me dit rien. Mais c'est gentil,
France,
c'est
le vrai France, Camini.
Le vrai France, le vrai, hein.
Ici, ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Ici, ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil.
Le vrai France.
Ici, ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Ici, ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil.
Pas de transport en commun, le vrai France. 1000 habitants, un médecin, le vrai France. C'est le désert médical, pas d'hôpital, à moins de 100 mal, si encore, si t'as de la chance. Fermeture de l'usine, le vrai France. Fermeture de l'école, le vrai France. Fermeture de la ferme avec fermeté, ta gueule, tu la fermes avec urgence.
Ici, ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Ici, ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil.
Pas de boîte branchée, le vrai France. Peur des étrangers, le vrai France. Front national en tête, le vrai France. Flow qui rentre dans la tête, le vrai France.
Le vrai France, 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 le vrai France. Le vrai de vrai, c'est qui parle le vrai. C'est le vrai vie, mon gars, ouais, pas celle de l'télé. Ici, ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. C'est pas Paris, ici c'est pas pareil. Le vrai de vrai, c'est qui parle le vrai. C'est le vrai vie, mon gars, ouais, pas celle de l'hôtel.
Bienvenue dans le monde rural,
le vrai France.
Oui, c'est pas ce que dalle,
le vrai France.
On parle de ton bled, que s'il y a un scandale, un crime brutal qui frôle la démence. Chez nous, y'a pas trop de bitch,
bitch.
Plutôt les vaches et les biches,
biche.
Nos vies, c'est pas des clips,
clip.
Y'a pas de réseau, tu flippes,
flip.
Là d'où je viens, y'a pas de loup boutin, ni de star, ni de bling bling. Là d'où je viens, y'a pas de Ferrari, mais des bagnoles en mode tuning. Pas de maison de quartier, le vrai France. Attention, même pas de quartier, le vrai France. Toujours les derniers servis, le vrai France. Marre d'avoir à survivre, le vrai France.
Le vrai France, 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 le vrai France. C'est le vrai de vrai, c'est qui parle le vrai. C'est le vrai vie, mon gars, ouais, pas celle de l'hôtel. Ici, ici, c'est pas Paris. C'est pas pareil. Ici, ici, c'est pas Paris. Ici, c'est pas pareil.
Le vrai de vrai,
le vrai France, car le vrai, c'est le vrai vie, mon gars, pas celle de l'hôtel.
Le vrai France, le vrai, à Paris ils en ont marre. Et nous ici, on en a marre. Le vrai France, le vrai France, le vrai France,
c'est le vrai France. C'est là qui personne pense. Ça frôle la démence. C'est le vrai France.
Le vrai France. Le vrai France. Le vrai France.
Le vrai France.
Le vrai France.
Le vrai France.
Le vrai France.
C'est le vrai France.
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 C'est le vrai France.
Camini.
Elle France, ce sera sur votre prochain album qui sortira début 2019.
C'est ça, tout à fait, ouais.
Merci Mélanie Boer. Allez, on va aborder ce premier sujet. Les maires sont les derniers élus en qui les Français ont encore confiance. Sauf peut-être à Levallois-Perret, ça on ne sait pas. Mais ils sont de plus en plus nombreux, ces maires de petites communes, à se décourager. Et ces défections, elles s'ajoutent à ceux qui quittent leur poste pour éviter le cumul des mandats. Alors bon, comment encourager des jeunes à prendre la relève ?
Tu es prêt à écraser tes ennemis ?
Oui.
À trahir tes amis ?
Sans problème.
À faire la bise à des milliers de vieux qui bavent ?
S'il le faut.
À manger une saucisse de Bourton à 8h du matin dans une foire de Pecnon ?
J'adore la saucisse.
Ah bah.
C'est Galabru dans Neuilly sa mère. Alors c'est un article que nous avons trouvé dans La Voix du Nord, vous qui êtes nordiste Camini. Depuis les dernières municipales en 2014, il y a 84 maires qui ont démissionné, jeté leur écharpe sur 1500. Et c'est un phénomène que la presse appelle le blues des maires. Il y a déjà eu pas mal d'articles sur ce sujet, mais là très récemment c'est La Voix du Nord. Est-ce que vous par exemple, vous auriez causé du surcroît de travail ou du souci au maire de Marly-Gaumont?
Alors, on a eu juste un moment où il y a des mecs qui venaient piquer les panneaux du village, quand on était en plein buzz, ils piquaient les panneaux d'agglomération, quoi. Et on les a jamais retrouvés. Ni les panneaux, ni les voleurs. Pas la moindre piste. Pas la moindre empreinte. Pas la moindre trace ADN. Voilà. Dédicace aux experts.
Mais donc vous avez fini par le rencontrer. C'est quoi le profil type du maire
Du village.
Par exemple, ouais, du village.
Bah, souvent, en tout cas à Marly-Gaumont, à chaque fois le maire avait toujours plus de 60 ans, retraité, souvent retraité. Mm-hmm. Pas le dernier, pas Dominique. Bon, on se connaît très bien.
Ouais. On le salue d'ailleurs.
Il continue de travailler, mais sinon c'est à peu près ça les profils.
Ouais. Et vous comprenez vous que dans les petites communes, le maire est souvent le seul intermédiaire avec la population. Et il y a des témoignages dans La Voix du Nord, et ils expliquent qu'on me tire la manche aussi bien pour un problème de voisinage que pour un accident mortel. Mmh. Donc cette lassitude, vous pouvez la comprendre, vous
je peux la comprendre parce qu'il y a en plus il y a le truc de intercommunauté de communes là, tout ça.
Exactement, oui.
Donc ils ont un peu moins de pouvoir de décision. Mm-hmm. Il y a beaucoup
Il y a des regroupements de communes pour certaines choses comme les médiathèques, etc.
Voilà, donc c'est un peu compliqué pour eux. Et après, de toute façon, le sentiment des maires dans le milieu rural, c'est à peu près le même sentiment que les gens qui vivent en milieu rural. Il y a un sentiment d'abandon. Il y a beaucoup de désertification. Les gens partent en ville. Les commerces ferment. Par exemple, moi, Marly-Gaumont, dans ma jeunesse, même si je suis encore jeune, attention, okay, je sais qu'on est filmé, ok. À Marly-Gaumont, dans les années 80-90, un exemple, il y avait une épicerie, il y avait deux bars, il y avait ça, déjà, c'était bien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus.
Eh oui.
Donc c'est un exemple pour dire que voilà, en fait, tout tombe à l'abandon un peu dans le monde rural. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est par exemple dans l'immobilier, voilà, il y a énormément de maisons, mais des très belles maisons qui dépérissent comme ça à la campagne. Et je pense que c'est un climat ambiant un peu comme ça, un sentiment d'abandon. Et si la population là, il n'y a pas de raison que les maires ne la ressentent pas non plus.
Oui, on comprend que même si le bar ferme, l'épicerie ferme, c'est aussi des maillons entre la population.
Voilà, exactement.
Là où on a besoin de parler, parfois de déverser,
se rencontrer, d'échanger,
les problèmes de la commune. Et donc là, le maire est tout seul, s'il n'y a même plus l'épicier
exactement.
Pour écouter
voilà,
les gens.
Voilà, les maires sont un peu à l'abandon aussi, quoi, je dirais.
Et quand vous faites le petit patelin tour, très souvent, moi aussi on va dans des petites villes, le maire vient voir le spectacle.
Ouais,
et là, à la fin, on discute. Ouais. Et très souvent, je lui dis, vous êtes de quelle partie tout ça.
Ouais.
Et il me dit, vous savez, moi je suis un tel ou un tel, mais ce qui se passe à Paris, on est très loin de tout ça ici. Et en fait, ils ont tendance à critiquer la grande politique. Eux, ils sont vraiment en lien avec le...
C'est une politique proche du citoyen.
Exactement, non.
C'est un peu à la politique ce qui est le médecin de campagne.
Exactement.
Voilà, c'est un peu ça la métaphore.
On soutient tous les maires.
Merci Camini. Alors, cet autre sujet, plus tard les scientifiques parleront peut-être de l'homme de 2018 comme d'un individu ayant la flemme, assis devant Netflix justement, se faisant livrer ses repas par un coursier à vélo, sous une météo émolliente et une croissance au ralenti. Alors, est-ce qu'on se traîne à ce point? Et peut-être certains plus que d'autres, dans certains pays bien sûr, évidemment.
Et un italien sait ce qu'il a à faire sans qu'on lui dise. Il passe devant une affiche qui dit « Tout le 2 heures, la pause s'impose ». Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que ce midi, j'ai prévu de m'accorder une pause. Pour faire un tour chez toi et coucher avec ta femme.
On appelle ça dolce far niente. Ça veut dire la douceur de ne rien faire. C'est un sport national.
Dolce?
Dolce far niente.
C'est un extrait de la version française du film Mange, Prie, Aime. C'est un article sur la flemme qui serait... une caractéristique de l'homme moderne aujourd'hui. Article paru dans Marianne. Marianne erre avant Natacha Polony. Hein. C'est le dernier numéro, profitez-en avant l'arrivée de Natacha Polony. Alors, est-ce que vous trouvez, Camini, qu'on serait tous devenus un peu flemmards parce qu'on a toutes les commodités, les services, les applis, qu'on peut, toutes ces facilités finalement du quotidien, fait de nous peut-être des gens qui se bougent plus tellement
J'ai la flemme de répondre à la question. Je suis fatigué là déjà, j'en peux plus.
Vous pouvez, c'est vrai que
la technologie apporte une certaine facilité, un certain confort, et effectivement, ça peut rendre un peu flemmard, un peu feignant, mais on n'est pas non plus feignant ou on n'a pas la flemme à tous les niveaux non plus.
Il y a des choses pour lesquelles vous vous dites, alors ça, je sais que j'ai cette facilité, je pourrais le faire comme ça, mais allez, hop, j'y vais.
Ah oui, par exemple, parfois on va aller à la boulangerie, pas si loin que ça, on y va en bagnole. C'est des trucs comme ça, quoi, du quotidien au final.
Ça, avec François de Rugy, ça va bientôt être fini, ça vous savez. Hein, quand même,
c'est vrai.
Hein. Est-ce qu'autour de la table, vous avez des choses où vous vous dites parfois, non, je sais que j'ai cette appli, je sais que je peux commander ceci, etc. Et puis
Pour le transport, un tout petit peu. Mais c'est souvent pour gagner du temps. Ouais. C'est pas tant pour.
C'est ça, on essaie de gagner du temps. La flemme de se faire à manger, parce que parfois on n'a pas le temps, donc on mange mal aussi. Oui. Donc ça, vraiment, ouais, c'est vrai.
Et donc on demande à un esclave à vélo sous-payé de venir nous apporter.
J'ai dit les transports, jamais pour manger.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye.
C'était Dionne Warwick. Alex l'a immédiatement reconnu. Ce fameux titre, Walk On By.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Et on va entamer la deuxième partie de cette émission en compagnie d'un apiculteur. Oui, il s'appelle Arnaud Montebourg. C'est pas n'importe quel apiculteur, c'est sûr. Disons qu'il a un passif. Et ça, Guillaume Meurice s'en est emparé, non?
Effectivement, il est allé à la rencontre des Français pour savoir si les gens s'en souvenaient un peu aussi bien que vous d'Arnaud Montebourg.
Je suis très heureux de, qu'on reçoive Arnaud Montebourg, le célèbre apiculteur. Saviez-vous que vous aviez un homonyme illustre qui a été homme politique? Arnaud Montebourg, c'est le même orthographe. Il a été ministre sous Jean-Marc Ayrault. Alors, je sais pas si quelqu'un se souvient ici de Jean-Marc Ayrault.
Un chanteur?
C'était le prof de charisme de François de Rugy. Il a tout appris. Et le Arnaud Montebourg en question, il était dans le gouvernement Manuel Valls. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Manuel Valls. C'est le mec qui a la même cote de popularité que Zemmour chez les Black Panthers. Eh bien, ce Arnaud Montebourg-là, il l'a connu. Et il a marqué les Français, ce Arnaud Montebourg. Je le sais, parce que ces Français, je les ai rencontrés ce matin. Et il a laissé une trace indélébile dans leur tête.
Si je vous dis Arnaud Montebourg, ça vous évoque quoi?
Le slip français ou...
Si je vous dis Arnaud Montebourg, vous répondez slip français.
Slip français et puis Cocorico. Voilà.
Voilà, Cocorico et slip français. Arnaud Montebourg a laissé une trace indélébile dans le slip français. Voilà, faudrait quand même pas l'oublier. C'est de l'humour made in France aussi, attention. Cocorico, vive l'almanach Vermeaux. Toujours est-il que les Français aiment cet Arnaud Montebourg pour son côté fantasque et rebelle.
Il a toujours eu des positions complètement décalées sur tous les sujets. Quand il était dedans, il était dehors. Quand il revenait dedans, il repartait ailleurs.
Et si on devait retenir une chose de son action politique ? C'est pas évident.
Non,
non, c'est pas. Il y en a eu tellement. Il y a eu tellement de réformes. Enfin voilà, pas toutes vous les citer. Je vous rappelle qu'il a été ministre en pleine guerre contre le monde de la finance. C'était violent à l'époque, hein, quand même. On pendait les traders par les couilles. Dominique Seux a dû se cacher des jours dans la fiche d'imposition de Thomas Thévenoud pour échapper à l'horreur. Donc c'est difficile de faire le tri dans l'action de cet Arnaud Montebourg. Les Français ont le tournis. Alors les Françaises, c'est encore pire.
Vraiment, je ne me souviens plus du tout ce qu'il a fait, mais c'est un peu des problèmes de mémoire aussi. Donc...
Oui, ça doit être ça.
Mais on ne le voit plus sur match, donc on ne sait plus au courant de ce qu'il fait.
Bah oui, avant on le voyait en couverture de match.
À moins qu'il fasse de nouvelles rencontres.
Ah oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu en couve de Paris Match, cet Arnaud Montebourg. Hein, ça fait longtemps. Peut-être qu'il est déjà dans les salles d'attente des dentistes, entre deux morts célèbres du style Lady Di ou Jean-Pierre Elkabbach. Mais bon, Arnaud, il est vivant et il plaît à cette autre dame.
Oui, ça va.
Ouais. Pourquoi vous l'aimez bien ?
Je le trouvais plutôt à ma fantaisie, là.
Vous le trouviez à votre fantaisie ?
Et voilà.
Et sa principale qualité, ce serait quoi ?
Un bel homme.
Et son principal défaut ?
Bel homme et le savoir.
Ah, c'est vrai qu'il le sait. Il est beau gosse, mais on voit qu'il le sait. Il s'aime bien, le nono. Ah, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais il s'aime beaucoup. Il fait partie du club de la mèche avec Laurent Delahousse et Guy Lagache. Il fait partie de l'amicale des visages poupons avec Gérard Larcher et Alex Vizorek. Il est beau et il le sait. Alors là, je crois qu'on a fait un bon bilan positif de cet Arnaud Montebourg. Il est temps peut-être de passer un peu de nuance avec un autre Français rencontré ce matin. Si je vous dis Arnaud Montebourg, ça vous évoque quoi ?
Une merde sur une pelle en bois.
Arnaud Montebourg ?
Oui. Il a sauvé la France en bonne de bourse, un branleur, c'est le bobo gaucho, qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est, je vous dis, une merde sur une pelle en bois, voilà.
Mais je ne connaissais pas l'expression, une merde sur une pelle en bois.
Vous venez de l'apprendre.
Ben, c'est aussi ça le service public, hein, prendre une expression, une merde sur une pelle en bois. Alors ce monsieur n'est pas le président du fan club d'Arnaud Montebourg. Hein. Je crois que ça c'est un peu clair pour tout le monde.
Qui ne vote pas à gauche non plus.
Vous allez voir la suite. Il suit quand même les aventures d'Arnaud, il est un petit peu au courant.
Il culbute et qui l'autre là, les lunettes à 10 000 euros là. Comment elle s'appelle, elle
est
Ah c'est ouais, voilà. Elle a dû le larguer parce qu'il est trop con.
Bah, écoutez, on lui demandera. Alors, on lui demandera si on l'a sous la main, parce que là, on n'a que son homonyme apiculteur, c'est dommage. Je rappelle que le principal défaut de la compagne d'Arnaud Montebourg, c'est son compagnon. En tout cas, il est bien remonté, le monsieur. On ne savait pas qu'Arnaud Montebourg était aussi clivant. Et en même temps, ce monsieur, qui est-ce qu'il aime bien ?
Sarko, c'est encore le seul normal. Le matin, il se lève, il va faire du vélo, il picole pas. Il a une gonzesse, elle est super canon. Et il nous a jamais fait moins chier que les deux connards qu'on a eu après lui. Hein. Autant Hollande et puis l'autre trou du cul, là, aujourd'hui, le morveux, là, qui a l'âge de mon fils, là.
Mais Sarko, il a quand même quelques petites casseroles, non ?
Qu'est-ce que c'est, quoi ? Que voulait dire quoi ? Mais putain, mais vous êtes un putain de gaucho de... C'est pas possible.
Moi-même ?
Ah ben certainement.
Vous savez, on est
tout
tous...
Tout le monde a pris. Tous...
Ouais, colère, hein. C'est vrai qu'il a la même voix que Mocky.
C'est
on l'a rencontré ce matin, je fais des belles rencontres. Oui. C'est vrai que bon, bobo gaucho, on est tous le bobo de quelqu'un et ainsi de suite jusqu'au dealer de quinoa d'Eddie de Préto. En attendant, bah, on passe le bonjour à cet Arnaud Montebourg s'il nous écoute, en le remerciant pour toutes les conneries qu'il a pu dire et faire pendant sa carrière politique parce qu'on en a fait notre miel.
Oh merci Guillaume Meurice. Arnaud Montebourg, l'apiculteur est avec nous, pas le politique, on ne connaît pas le politique. Donc vous êtes devenu entrepreneur, vous avez créé une société, les équipes du Made in France, pour relancer des productions Made in France, du miel et de l'amande. Il y a la Société d'élevage et de repeuplement des abeilles de France, il y a la Compagnie française de l'amande méditerranéenne. Alors quand on parle de vous, on dit Arnaud Montebourg, l'apiculteur. Vous êtes vraiment apiculteur ? Vous mettez aussi la main à la ruche ? Comment ça se passe ?
Pas tout à fait, car c'est un métier difficile qui s'apprend sur de longues années. Mm-hmm. Je n'ai pas eu cette chance de l'être. Peut-être si j'avais eu 25 ans ou 30 ans, je l'aurais fait. Mais j'en ai 56. Donc, en revanche, fédérer les apiculteurs, financer leur développement, former les nouvelles générations d'apiculteurs, valoriser leur travail, créer une marque qui valorise leur travail de respect de l'abeille et qui leur permettent de vivre confortablement et raisonnablement de ce qu'ils font, ça, oui, c'est intéressant parce que c'est le travail, finalement, de toute une filière. Donc, nous avons créé, c'est vrai, Bleu Blanc Ruche, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce sont des apiculteurs français qui vendent leur miel sans mélange, sans trafic, sans aucune forme de détournement, de fraude ou de soupçon.
Généralement, la fraude, c'est mélangé à du sirop, c'est ça?
C'est souvent mélangé à du sirop lorsqu'elle est détectée. Il y a quand même un tiers des miels, selon UFC Que Choisir, de premier prix de grande distribution, qui ont été considérés comme frauduleux. Donc, c'est donc bien qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand on mélange du sirop de sucre au miel, c'est du faux miel, qui est beaucoup moins cher. C'est du miel low cost, mais c'est pas du miel. Et évidemment, ça met en difficulté, en péril, les apiculteurs, qui, s'ils ne peuvent plus vivre de leur travail, eh bien, voilà, les abeilles disparaissent. Si vous ne protégez pas le gardien des abeilles, vous perdez les abeilles. Donc, notre choix, c'est de reformer des générations d'apiculteurs de haut niveau, métier de haute scientificité maintenant, parce que c'est presque un boulot de vétérinaire. Mm-hmm. Avant, c'était un métier de cueillette, mettez 50 ruches au fond des bois, le miel coulait.
Ça souffre pas l'amateurisme, tout ça, parce que, il faut vraiment être très professionnel pour s'occuper des ruches. Sinon, il y a des périls.
Et d'ailleurs, notre idée, c'est qu'il faut professionnaliser davantage la profession, puisqu'on ne produit plus assez de miel. Il y a 20 ans, on consommait 30 000 tonnes de miel, on en produisait 30 000, ça s'équilibrait. Maintenant, on en consomme 45 000, on a produit l'année dernière à peine 15 000, 16 000.
Donc vous voyez qu'on consomme plus de miel qu'avant.
Oui, parce que la population a augmenté. Puis aussi, c'est un produit qui connaît du succès et de nouveaux adhérents.
Et on sait combien de personnes il faudrait former ou pas?
Alors, dans l'idéal, ça se compte en nombre de ruches. Il manque 13 millions de ruches en Europe.
Ouais.
On évalue qu'il en manque 1,5 million à peu près en France. Pour recréer 1,5 million de ruches, vous avez des exploitations de 200, 300, 500 ruches. Vous voyez ce que ça fait comme apiculteurs qui peuvent vivre de leur travail. Hein, vous voyez le nombre de gens qu'il faut former. C'est pour ça qu'il y avait hautes études commerciales, HEC. Alors on a fondé HEA, hautes études apicoles. Voilà. C'est un peu une école nationale d'apiculture, l'ENA, vous voyez, qui sert finalement à repeupler avec des gens de très haut niveau qui veulent se former, se reconvertir. Il y a 10 millions de Français qui veulent retourner à la campagne, qui veulent quitter la ville. Bah, c'est un peu pour eux aussi que nous avons donné cette possibilité.
Ça, on a le soutien. Que Guillaume le fasse, d'ailleurs.
Bah, pourquoi pas l'un d'entre vous, par exemple.
Est-ce qu'on peut traverser la rue et devenir éventuellement un apiculteur?
Non, il faut traverser. C'est ma question. Non, la traverser un tout petit peu plus loin.
Un peu plus loin.
C'est une forme d'odyssée contre soi-même, parce que c'est un an de formation. Il faut le soutien de Pôle emploi, il faut soi-même avoir... l'école, nous ne la faisons pas payer, mais il faut quand même vivre pendant un an de formation, et c'est avec le soutien de la filière, parce que nous avons mis autour de la table des apiculteurs aguerris et professionnels, et des financiers pour nous aider à faire ça.
Et voilà. Donc, si je comprends bien, vous rémunérez des apiculteurs français au prix au-dessus du marché, en échange de leur engagement à accroître les colonies d'abeilles.
C'est exactement ça. Bleu, blanc, ruche, vous allez payer un pot, peut-être 20, 30, 40, 50 centimes selon les miels. Peut-être un peu plus, c'est des miels bio plus rares. Un peu plus votre pot. Et en contrepartie, les centimes que nous obtenons sur le pot, ça fait des dizaines de milliers d'euros à la tonne chez l'apiculteur. Et là, l'engagement de nos apiculteurs, c'est d'augmenter le nombre de ruches l'année qui suit. Donc, par exemple, on a le projet avec un apiculteur qui a déjà 600 ruches. Il veut créer une autre exploitation de 600 ruches à côté avec nous pour pouvoir augmenter et repeupler la France en abeilles.
Et c'est pareil avec les amandes. Votre compagnie française de l'amande méditerranéenne, il y a aussi ce même système?
Eh ben, c'est le même problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amandiers en France. On consomme, l'Union européenne consomme 3 milliards d'euros d'amandes par an, importe 80% de Californie. Ah ouais. La Californie est le premier producteur mondial. 365 000 hectares, ils ont plus d'eau. Pourquoi aller chercher des amandes en Californie alors que en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers plantés en Provence? Donc l'amande made in France, les industriels de la transformation, pas d'amandes, pâtissiers, l'Occitane, nous demandent du produit made in France, il n'y en a pas. Eh bien, on plante. Donc on a monté un modèle économique avec des arboriculteurs pour replanter des amandiers. C'est Arnaud, de la relocalisation agricole.
Arnaud Abliculteur est avec nous jusqu'à 18h. Arnaud Montebourg, donc votre société, donc les équipes du Made in France Bleu Blanc Ruche. Donc à un moment, on pourra consommer des pots de miel bleu blanc.
Le miel bleu blanc
Ruche. Faites les questions et les réponses.
Sans échantillon.
Où est-ce qu'on peut le trouver? Eh bien, sur une plateforme de financement participatif, qui s'appelle Ulule, ulule.fr, et tout le monde peut se connecter et contribuer. Alors vous pouvez acheter 50 pots de miel, un pot de miel, et tout le monde peut donc acheter son pot de miel bleu-blanc-ruche sur Internet et contribuer au repeuplement ainsi. Et puis ultérieurement, ce sera la surprise dans la grande distribution peut-être, nous allons voir si monsieur Leclerc est un homme qui fait monter la rémunération des apiculteurs ou pas.
Président des apiculteurs, Arnaud Montebourg avec nous. Alors Arnaud Montebourg, on va profiter de votre présence pour aborder ce premier sujet. Car au moment où on envisage de remplacer les notes des élèves par des petits soleils et des gommettes, parce qu'on veut éviter de les traumatiser, la ministre de la Santé, elle envisage de noter les hôpitaux publics, le ministre de l'Éducation veut évaluer les enseignants, et puis finalement, on vit dans un monde au-delà du gouvernement et la politique, où on note tout, on doit même donner une note jusque dans les chiottes des aéroports.
C'est vrai.
C'est vrai. Donc c'est donner une note, je rappelle, c'est un petit pouvoir quand même, écoutez.
Je vous rends les dissertations. Alors là, nous descendons dans les bas-fonds de l'intelligence humaine. Nous retombons brutalement sur une terre épaisse et bien rude, comme l'est l'intelligence de notre pauvre Noémie, qui avec 4 sur 20 a même réussi à faire des progrès. C'est peu dire. Pénélope Léger. Ça l'est beaucoup trop, ça, Léger. On s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. Anna, c'est vain, c'est stupide, c'est aussi prétentieux et tout à fait creux. Voilà, 5.
Voilà, Denis Podalydès dans le film Les Grands Esprits. Donc, Arnaud Montebourg, notre société, elle s'apprête à tout noter, tout évaluer, les enseignants, les hôpitaux publics, etc. Alors, on sait qu'on vit dans un monde de premier de cordée, mais est-ce qu'on se dirige aussi vers un monde de premier de la classe? Est-ce que vous êtes sensible à cette inquiétude qu'on peut avoir de toujours tout noter? Votre miel va être noté par rapport aux autres miels, ça oui, mais quand il y a un service public, quand il y a...
Écoutez, l'évaluation est nécessaire, mais évidemment, lorsque vous demandez aux élèves de noter leur professeur, vous avez une inversion des choses. C'est-à-dire que finalement, tout se vaut. Et toutes les notes s'accumulent dans tous les sens, et finalement, vous avez une société plate, où il n'y a plus que des mentions TripAdvisor sur tout ce que vous faites, au point d'ailleurs que finalement, vous vous retrouvez en situation de ne plus tellement avoir de repères. Donc, la question c'est, est-ce qu'il y a des choses qui échappent à la notation? Oui, les métiers d'autorité, parce qu'ils ont l'autorité, et dans la médecine, il y a une part d'autorité. Est-ce que moi-même, je suis apte à noter mon chirurgien? C'est évidemment, s'il s'est trompé de jambe lorsqu'il a changé de genou, je veux bien penser que là, pour le coup, c'est pas une note, je vais lui faire un procès. Ouais. Mais en dehors de ça, est-ce que je suis capable de le faire? Je crois pas. Est-ce que je vais noter mon médecin? Est-ce que moi-même, qui suis retourné à l'école pour me former, quittant le gouvernement, parce que je pense qu'il faut se former toute sa vie, et c'est très intéressant, je donnais des cours à Princeton, mais j'ai reçu des cours à Fontainebleau, à l'INSEAD. C'est intéressant. Mais franchement, je n'étais pas apte à noter mes professeurs. J'avais été ministre de l'économie.
Donc, c'est pas vrai, là. Dans votre cas, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à l'université, notamment en Belgique, ils ont un âge où ils sont capables de juger de la qualité de pédagogue du professeur.
Je pense qu'on peut se tromper. Pour une raison simple, parce que le pédagogue lui-même a la vision de où il veut emmener l'élève, quel que soit son âge, et donc faut lui laisser cette liberté. La vérité, c'est qu'il y a derrière une perte de liberté et d'autorité. C'est ça qui est en train de se jouer. Donc franchement, moi, je ne participe pas toujours à la notation. Vous voyez, par exemple,
vous la refusez quand on a...
dans les taxis, on nous demande de noter les chauffeurs. Ouais. Je mets toujours la note maximale par principe, puisque sinon vous pouvez pas commander.
Moi, je fais l'inverse. Je mets toujours la pire par principe. Quand même, c'était super.
Attention, c'est les VTC qu'on note, hein. Les taxis, je pense. On peut noter si les taxis
aussi sur les applications, en effet.
Mais... on demandera Jean-Paul Cluzel.
On n'est jamais très loin de l'idée du ressenti, en fait, du consommateur. Moi, c'est ça que je trouve gênant aussi. C'est-à-dire que dans les questionnaires, on n'est jamais très loin de est-ce que vous vous êtes senti à l'hôpital, en sécurité, pris comme une personne et pas comme un objet médical. Est-ce que c'est comme le fameux sentiment d'insécurité? Il n'y a rien de plus subjectif et aléatoire qu'un sentiment. Et du coup, il y a quelque chose, je trouve, de très dangereux à estimer que le ressenti de la personne, qu'elle soit patient, qu'elle soit élève, qu'elle soit parent aussi.
La subjectivité.
Oui, en fait, du coup, valent pour pleine autorité. Justement, c'est le ressenti qui est subjectif, qui remplace quelque chose d'objectif, qui est une forme d'autorité.
Mais ça s'incarne avec les smileys. On parlait des toilettes tout à l'heure, aux sorties des toilettes des aéroports, c'est pas des notes sur 20, c'est des smileys avec des sourires.
C'est du ressenti. Voilà.
Exactement.
Ça a peut-être commencé avec les agences de notation, d'ailleurs, non?
La vérité, c'est que je pense qu'il faut aussi parfois noter les agences de notation. Il y aurait beaucoup à dire. Donc, si vous voulez, qui garde les gardiens? C'est déjà une chose. Est-ce que la foule a toujours raison? Ça n'est pas certain. Elle peut parfois se tromper. Nous avons eu des cas dans l'histoire qui a montré que j'ai rencontré un jour un Allemand qui était très âgé, j'étais jeune. Il m'a dit, il avait 90 ans, il dit, je ne vote plus parce que j'ai voté Hitler. Bon, ça existe quand même. Donc cette histoire-là, nous devons nous en souvenir. Donc la foule peut se tromper.
Arnaud Montebourg.
Agnès Buzyn égale SS, je crois qu'on peut conclure le débat comme ça.
Ce sera le titre de cette émission.
Non mais c'était, excusez-moi, je prenais cet exemple un peu fort.
Vous avez un peu pourri l'ambiance, moi je suis juste après, ça m'arrange
vous
pas.
Vous êtes dans une émission satirique, profitez-en. Arnaud Montebourg, l'entrepreneur avec ses équipes du Made in France pour le miel et les amandes. Et il est l'heure de passer la parole à celui qui, pour soutenir Éric Zemmour, a décidé de s'appeler Corinne. C'est vous, Corinne Mira. Oui. Qui nous parlait du retour de la police de proximité.
Oui, Charline, et aujourd'hui, je vais m'adresser aux policiers qui nous écoutent. Et... Non, je déconne, on est sur France Inter, évidemment, il n'y en a pas. Je m'adresse aux professeurs de collège-lycée qui nous écoutent et qui auraient un cousin policier à qui il ne parle plus depuis 10 ans. Eh bien, il est temps de se soucier un peu de notre police qui souffre. Une police qui, espérons-le, ira bientôt mieux grâce au plan reconquête des banlieues de Gérard Collomb. Car oui, enfin, la République va enfin faire trembler les délinquants. Et ça ne sera même pas à cause de Gérard Larcher qui fait un footing. L'objectif de ce nouveau plan, et c'est pas gratuit ça Alex,
c'est vraiment pas gratuit.
L'objectif de ce nouveau plan, envoyer 1600 policiers de proximité dans les quartiers difficiles où circule pas mal de drogue. Donc attendez-vous à avoir débarqué beaucoup d'agents de police si vous habitez dans Thierry Ardisson. Petite précision, les 1600 policiers seront tous des volontaires. Et moi je dis bravo à tous ceux qui s'engagent dans ces quartiers. Il me rappelle un peu Alex draguant une femme. Hein. On sait qu'ils échoueront dans leur mission. Mais quel courage Alex. Et du courage, il en faudra, car ce plan reconquête sera une mission longue et compliquée face à des délinquants de plus en plus rodés, il faut le dire ce qui est. Depuis des années, ils savent parfaitement où cacher la drogue, où cacher les armes, où cacher leurs neurones. Mais au moins, ce dispositif a le mérite d'exister. L'occasion pour moi d'ailleurs de tirer un grand coup de chapeau à Gérard Collomb. J'ai toujours été fan de son travail, que ce soit au ministère de l'Intérieur, à la mairie de Lyon ou sur
W9. Ouais. Mais de quoi vous parlez Pablo là,
Corinne, Charline.
Pardon, oui, de quoi vous parlez Corinne, je veux dire, avec Gérard Collomb et W9 là,
Attendez Charline, vous mettez le doute, là ce qu'on entend là.
Achève-le.
C'est pas Gérard Collomb en train de doubler le père d'Homer Simpson dans Les Simpsons? Non? Pardon, c'est à s'y méprendre. Ouais. En tout cas, là où je n'ai aucun doute, c'est sur la déliquescence de nos banlieues. On a des quartiers où les lois de la République ne sont même plus respectées. On a des quartiers qui se sont mis à ressembler au cerveau d'Alexandre Benalla, quelque part. Et il suffit pour ça d'aller sur place pour s'en convaincre. C'est le Far West. Le nombre d'insultes envers les policiers explose. Ce qui veut dire deux choses. Un, l'autorité de la police a été mise à mal. Et deux, la supérette en bas de chez Jean-Vincent Placé continue de lui vendre de l'alcool. Mais ceux qui souffrent le plus, ce sont bien sûr les habitants de ces quartiers difficiles qui n'en peuvent plus. La preuve avec ce sondage de l'INSEE réalisé en janvier dernier. 90% des Français se disent favorables à un retour de la police de proximité. Les 10% contre étant bien sûr des agents de la police de proximité. Et il est peut-être là le mot-clé de la réussite de ce projet. Proximité. Proximité des policiers avec les riverains. Proximité des semelles des policiers avec le visage des délinquants. Quant aux plus récalcitrants, eh bien, moi je le dis, il faut chasser ces crapules par tous les moyens. Par tous les moyens. Même les plus violents comme, je sais pas moi, tourner l'émission d'Yves Calvi sur Canal+, dans un hall d'immeuble. Écoutez, ça a fait fuir les téléspectateurs. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec les voyous. Alors, est-ce que ça suffira, Arnaud? Est-ce que ça suffira? Réponse, très honnêtement, non. Car pour que la reconquête fonctionne vraiment, la police devra aussi tenir un rôle, on va dire, pédagogique envers ces jeunes en perdition. Leur expliquer qu'on ne rackette pas des retraités en leur tapant dessus, mais en augmentant la CSG. Pour conclusier, c'est anormal, je le dis, que dans certains quartiers, on laisse 3-4 caïds pourrir la vie des habitants. Il est temps que ces jeunes arrêtent de piquer le boulot des 577 personnes qu'on a élues à l'Assemblée pour le faire à leur place. Allez, salut. Je suis encore énervé aujourd'hui, Charles. Ça m'énerve, je m'énerve chaque semaine.
Merci Corinne Mira, merci beaucoup. Éditorialiste.
Oui, au moins c'est français. Ouais, renseignez-vous.
À Vanneurs actuelles, bien sûr. Arnaud Montebourg avec nous. On va aborder ce deuxième sujet. La France était, paraît-il, accoutumée à cajoler sa classe politique. Un candidat battu était recasé au sein du parti avant de reprendre son élan. Aujourd'hui, les politiques changent de carrière et la presse américaine s'en étonne, figurez-vous. S'accrocher à son siège serait une incongruité française. Les Ricains se félicitent que désormais, d'anciens ministres aient une deuxième vie professionnelle. Bon, sauf un qui est parti sans qu'on sache jamais vraiment ce qu'il fait, enfin ce qu'il fabrique aujourd'hui.
Lionel,
vous ne me faites pas entrer?
Si, rentrez.
D'où vient ce Jospin, le nom Jospin, votre nom
Jospin, c'est un nom d'origine flamande.
mes ancêtres, si je peux dire, sont descendus avec les troupeaux pour aller dans les usines textiles dans le nord de la France, venant des Flandres. Il n'y a qu'une famille, il n'y a qu'un groupe familial qui s'appelle Jospin. Donc si je croise un Jospin, c'est forcément d'une certaine façon ma famille.
Il n'y a pas d'homonyme là. C'est Jacques Gamblin et Lionel Jospin dans le film Le Nom des gens, le film de Michel Leclerc. Alors, le Courrier international relaye un papier de Bloomberg Worldview de New York qui démarre avec votre exemple. L'accroche de l'article du journal new-yorkais dit au début de l'année dernière, Arnaud Montebourg était candidat à la présidence de la République, etc. Aujourd'hui, il fait du miel. L'apiculture, dit-il, n'est qu'une autre forme de service public que vous prolongez, etc. C'est dans ce papier, je vous le donnerai. Vous êtes pris donc en exemple emblématique de la reconversion, parce qu'elle est aussi assez spectaculaire, c'est vrai, mais la réadaptation à la vie civile, est-ce qu'elle est si difficile que ça? On lit beaucoup d'articles sur que deviennent les anciens ministres, etc. Est-ce qu'à cause d'une forme de, peut-être de privilège qu'on a quand on est ministre et de facilité, le retour à la vie civile, elle est plus compliquée ou pas?
Bah écoutez, non, moi, d'abord, je n'ai pas fait que ça dans ma vie. J'étais 8 ans avocat, j'avais monté mon cabinet, j'avais réussi à mon âge, la position qui était la mienne à l'époque, comme avocat, j'étais très heureux de faire ça. Puis le hasard, le destin a voulu que je sois élu à 34 ans député, puis ensuite ça a duré 20 ans. Donc pour moi, c'était le retour à ma jeunesse finalement, c'est-à-dire je retrouvais mes 30 ans, où on se remettait à faire des projets, on construisait quelque chose, on allait chercher des gens, avec qui le faire, bref.
Oui, parce que vous n'avez pas voulu redevenir avocat, ce qui était la plus facile généralement pour les politiques. Bah,
je ne voulais pas, parce que j'avais d'abord vécu ça, je ne voulais pas le revivre, je ne voulais pas retourner en arrière. Puis j'avais depuis longtemps en tête de faire ça. C'était un rêve un peu de jeunesse qui avait été un peu frustré par le hasard de la vie. Et donc je suis quand même là un entrepreneur épanoui et content de ce qu'il fait. Je ne vous dis pas que c'est gigantesque, c'est très modeste, mais c'est concret et ça me permet de dire à vos auditeurs qu'ils peuvent acheter le miel des apiculteurs entre 5 et 9 euros, c'est-à-dire un prix tout à fait acceptable,
vous vous sentez
tout en repeuplant la France en abeilles.
Vous vous sentez plus efficace, parce que vous dites plus concret. C'est vrai que votre idée là a germé quand vous étiez en campagne et que vous avez rencontré des gens, serré des louches, etc.
C'était il y a 10 ans, quand je faisais du porte-à-porte, quand j'étais candidat pour être président du conseil général de mon département de la Saône-et-Loire, je suis tombé sur un apiculteur qui avait perdu toutes ses ruches, 800 ruches, c'était un drame, il pleurait presque. Et à l'époque, on savait pas, on comprenait pas. Donc je me suis mis à faire des recherches, je suis intéressé à ça, j'ai écrit sur le sujet quelques années plus tard. Puis après, je suis entré au gouvernement, j'étais pas à l'agriculture, donc ce n'était pas mon champ, mais c'est resté un point de préoccupation.
Mais voilà. Vous vous sentez donc plus efficace dans la société civile?
Je dirais pas ça, je dis c'est complémentaire. La politique s'occupe des grands problèmes, on peut être très efficace en politique, c'est difficile.
Est-ce que vous vous sentez aussi inefficace en politique qu'avec l'action civile?
La politique, c'est très dur, pourquoi? Parce que c'est conflictuel. Donc il faut convaincre des gens qui sont de mauvaise foi, en fait, en gros. En revanche, l'entreprise permet de résoudre des tas de problèmes, ils sont pas microscopiques, sont importants, mais vous pouvez le faire facilement parce que vous unifiez les gens autour d'un projet et que tout le monde y trouve son compte. Et c'est ça l'équilibre, c'est la beauté finalement de l'entreprise et de l'action entrepreneuriale.
On est quand même obligé de vous poser la question, est-ce que vous imaginez un jour revenir en politique?
Bah pas du tout.
Pour une raison simple, il faudrait quoi pour que vous ayez envie?
Écoutez, pour une raison simple, c'est immense. Vous savez, c'est comme en amour, quand il n'y a pas de désir, bah ça s'arrête.
Mais on a souvent vu rejaillir le
carrière comme ça.
Ah oui, il a fait sa carrière comme ça. Je ne vous connaissais pas, mais je dirais félicitations.
On a souvent vu rejaillir le feu dans l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, attention. Je vous laisse cet article. Je vous laisse cet article, lui dit justement à votre propos, l'apiculture n'est qu'une autre forme de service public que vous prolongez. C'est son interprétation, journaliste de Bloomberg Worldview. Je vous laisse cet article paru dans le Courrier international la semaine dernière.
C'est pas faux parce que notre entreprise Bleu Blanc Ruche, elle rend des services aussi à la société. En plus, même si son objectif, c'est d'abord de gagner normalement son argent, payer ses salariés, rémunérer le capital investi, etc., etc.
Arnaud Montebourg avec nous. Et
à la fin de l'émission, on propose tous les jours un sketch à l'invité qui découvre un rôle qui lui tombe dans les mains. Et vous êtes Arnaud Montebourg. Donc ça, le rôle est assez facile à jouer. Vous avez déjà aidé les abeilles, les amandes. Maintenant, vous vous attaquez à un dossier peut-être plus complexe. Charline et Guillaume sont vos élèves.
Oh, qu'est-ce que c'est là-bas qu'on voit bouger?
Mais c'est un socialiste, mon petit.
Un socialiste qui bouge, mais vous plaisantez?
C'est quoi un socialiste?
C'est une vieille espèce en voie de disparition.
Comme les dinosaures?
Oui, mais en nettement moins dangereux.
Et pourquoi les socialistes ont disparu?
La cause la plus récente de leur disparition est le macroniflore.
Oh, c'est quoi le macroniflore?
Un néo-socialistoïde qui a dépeuplé les rangs.
Mais vous êtes là pour le repeuplement?
Exactement, nous allons élever des socialistes d'origine gauche garantie.
Ça a déjà existé?
Oui, mais à une époque où ni vous ni moi n'étions nés.
Et comment allez-vous faire?
Nous allons lancer une opération de crowdfunding pour des socialistes pleine terre.
Ah, ça va faire un choc.
Le crowdfunding, pensez-vous, c'est hyper moderne?
Non, je parlais de la terre.
Non, le socialiste, il est forcément hors sol.
Justement, on va le réimplanter pour qu'il retrouve des couleurs.
Une sorte d'enfouissement productif?
C'est un peu l'idée, c'est ça.
Mais comment faire pour empêcher le socialiste de butiner?
Vous voulez dire à gauche et à droite?
J'avais plutôt à droite et à droite.
C'est simple, je compte sur l'interdiction du macroniflore.
Mais ça suffira, vous croyez?
Et non, il faudra aussi le protéger d'un autre prédateur.
Ah, le frelon asiatique.
Non, absolument rien à craindre de Jean-Vincent Placé.
Mais quoi alors?
Le bourdon marseillais, dit Lameluche, est un ancien socialiste qui a muté.
Oh, ça doit être dangereux, ça.
C'est les pires, ils ont un très gros patrimoine génétique, je veux dire, et sont toujours en lutte, je veux dire, des classes.
Ah bon?
Et si jamais ça marche, on fait quoi après?
Ben, j'enverrai au président de la République un bon échantillon de ma cuvée du repeuplement.
C'est l'instant Bard, Alex.
Oui, il va chanter. Et
qui
il
ça,
va...
Frédéric Fromet?
Oui, c'est le Bard. Il n'a pas changé. Non, on n'a pas changé. On a changé d'année, mais pas de, pas de voix fluette. Et il va nous chanter Make Our Planet Great Again.
Make our planet great again. Avec Alain Delon dans sa grosse BM. Avec Catherine Deneuve qui a tous les jours une robe neuve. Avec Bernard Lavillier qui prend l'avion 300 fois dans l'année. Make our planet great again. Avec Aznavour plutôt suisse que forêt amazonienne. Avec Marion Cotillard verte comme une marée noire. Benjamin Biolay, c'est pareil. Ses chansons déciment les abeilles. Make our planet great again. Évidemment qu'aujourd'hui comme hier, on a tous les droits. Et vous pensez bien qu'on n'a jamais eu faim, jamais eu froid. Est-ce que ça nous interdit de lancer notre appel? Alors que c'est nous qui faisons de la terre une poubelle. Si vous attendez qu'on change nos modes de vie, on a fait notre part. On a signé aux côtés de Régine et Nana Mouskouri. Make our planet great again. Avec Pierre Arditi dans les soirées mondaines. Avec Juliette Binoche qui découvre que polluer c'est moche. Avec Isabelle Adjani révoltée dans son jacuzzi. Make our planet great again. À nous le caviar et à vous les graines. Ça nous ferait mal aux derches d'aller aux toilettes sèches. Moi j'avoue que moi aussi, hein. On est écolo comme Macron dans sa piscine à Brégançon. Make our planet great again. Alors à seule fin que nous, les 200 personnalités, puissions au moins maintenir nos trains de vie obscènes. Make our planet great.
Bravo Frédéric Fromet, magnifique. On se rapproche des bips de 18h, Alex. Oh là là. C'est déjà terminé, mais on se retrouve demain, bien sûr.
Et avec qui, Charline?
Un humoriste, Dedo, et la merveilleuse Yolande Moreau. Oh. Chic, vivement demain.